Elle obscurcit la rivière de la Bastindal. Au-dessus, elle imagine la couleur flamboyante des champs de Sénévé, les villages côtiers, identiques avec leurs cordes à linge et leurs cabanes peinturées. La Steigne, Sérode, Marydale, Bounia, Nanmei. Elle atteint le large, le fusain à le crissement de la glace charrié par les marées. Elle passe aux terres ocres des carrières à pigments d'orange. Elle réentend le chant dans les grottes de Circé, l'écho des vagues sur leurs parois rocheuses. Puis, quand la masse noire de l'eau enfle, qu'elle devient baie, océan, elle retrouve les premières méduses échouées qui annoncent les plages clémentes de Sikkim, de Saint-Samovar. Puis, enfin, les falaises de Triglav, le village perdu de Sèche, la forêt de Sébastien. Sitchak, elle l'a noyé dans la mer. Audrey Wilhelmy est l'auteur de Os, paru en 2011, finaliste au prix du gouverneur général en 2012, et du roman Les Sangs, finaliste au prix des libraires et au prix France-Québec en 2014 et au prix SAD en 2015. L'extrait que je viens de vous lire vient de son plus récent roman, Le corps des bêtes. Audrey a des lecteurs un petit peu partout à travers la francophonie, au Québec et en Europe. Ce qu'elle va nous lire maintenant a eu droit à un public un petit peu plus restreint, soit celui des finissants de son école secondaire.
Nous plongeons dans un conte de fées sans fées.
Oui. Glorieusement intitulé « Des heureux ». Donc,
je t'invite à nous en lire un extrait.
Je me lance. Florange avait décidé que c'était ça ailleurs, Mary Berrydale. Le chemin pour s'y rendre n'était pas très clair, alors elle avait vagabondé quelque temps avant de découvrir un sentier qui menait peut-être au sentier oublié. Elle l'avait découvert au fin fond d'un rang de campagne, à 5 heures de la ville la plus proche. Elle avait troqué sa vieille voiture contre un cheval chez un fermier, chez Gérald les chevals Val-de-l'Art, qui, malgré un slogan pathétique, élevait des bêtes de qualité. Elle avait trouvé une manière de charger l'animal de son gros coffre en utilisant un système de traîneau, était montée et après une petite prière à la terre entière, avait fait avancer le cheval dans le chemin. Cela avait été plus périlleux qu'elle ne se l'était d'abord imaginé. Le sentier était boiteux et il s'effaçait après quelques kilomètres, si bien qu'elle avait passé 2 jours complètement perdus entre les marguerites aux pétales jaunes et les plants d'herbapus. Le bon côté, c'était qu'elle avait pu se concentrer sur sa vie et réfléchir aux événements qui avaient entraîné sa fuite de Wellington. Elle n'était pas vraiment arrivée à tout mettre en ordre, mais elle avait classé tout ce dont elle se souvenait de manière chronologique. Enfin, elle avait de nouveau rejoint le petit chemin sinueux et, après quelques heures, avait atteint une grande cour où de charmantes fleurs rouges dansaient à travers l'herbe haute. Dès qu'elle avait mis un pied hors du sentier, elle les avait aperçues, une dizaine de personnes, des reclus du monde ordinaire, partis se réfugier dans un ailleurs où tout était normal. Il y avait 7 hommes à la tête à l'envers, ce couple rondelait, les enfants tellement pas fascinés par son coffre, cette femme si blanche qui regardait les yeux dans l'eau s'envoler 2 feuilles de papier, un vieillard tout voûté et les autres discrets derrière. En les regardant, elle avait soudain réalisé à quel point elle était épuisée. Elle avait compris qu'elle avait vraiment eu peur et que presque 3 semaines à ignorer sa crainte avait été quelque chose de trop épuisant pour elle. Elle trembla, les visages devinrent flous, ses genoux cédèrent sous elle et elle glissa sur le sol. La première et seule chose que je le vis en ouvrant les yeux, ce fut cette araignée qui tissait méticuleusement une toile transparente au plafond. Et il sut qu'il n'était pas mort. Il resta couché un moment. Il n'arrivait pas à décider s'il était heureux ou non d'être toujours vivant. Chose certaine, il était heureux que cette petite chambre ne soit pas le paradis. Il aurait été drôlement déçu et aurait eu 1 ou 2 mots à dire à l'ange concierge. La chambre était très propre, mais le paradis, ce n'était pas l'endroit pour les araignées. Pourtant, de légers rideaux de lin clair voltaient doucement dans la brise légère de la fenêtre entrouverte. Dans un vase, un bouquet de marguerites jaunes trempait paresseusement. Une lourde courtepointe d'orange, ocre et rouge avait été posée sur le lit. Ses livres étaient rangés par grandeur dans une petite bibliothèque. Son matériel de photo reposait sur un petit bureau. Enfin, qu'il le veuille ou non, ce lit était confortable et il était bien. Il ne se souciait guère du lieu où il se trouvait. Il était bien. Dehors, les gens s'agitaient. Il entendait leur voix à travers la fenêtre ouverte et il crut saisir que quelqu'un venait de défaillir. Il était trop épuisé pour se lever, trop épuisé pour ne serait-ce que penser, alors il se rendormit comme si rien n'était. il fit un rêve étrange. Il regardait au loin et voyait de grosses épinettes qui dansaient dans le vent. Leur feuillage prenait des formes étranges et il voyait des visages apparaître à travers. Puis un gigantesque dragon faisait tout flamber et il voyait très distinctement le parc, la fontaine et ses sirènes, les balançoires, le gros saule où il avait décidé d'en finir. Ensuite, il se voyait lui, qui buvait à grandes gorgées l'eau empoisonnée de divers médicaments, et soudain, il se réveilla en sursaut. On marchait sur le toit.
On a eu droit à un tout petit extrait, en fait, ça fait à peine 2 pages et demie. L'histoire complète fait 54 pages. C'est peut-être une œuvre de jeunesse, mais j'avoue que j'en aurais pris plus. Mais ça nous donne quand même un bon aperçu de l'univers que tu avais été créé avec tes personnages qui sont en fuite, qui choisissent de s'exclure du réel.
Tous les personnages qu'on rencontre dans ce livre, on finit par retracer l'histoire de chacun et tout le monde a une raison pour laquelle s'est éloigné du réel, mais concrètement, ils sont tous fuient le réel parce qu'ils ne cadrent pas dans cet univers-là. Ils s'en sont construits un à eux.
Ce qu'on peut retrouver parfois chez tes personnages aujourd'hui, mais en même temps, ils sont beaucoup en opposition avec le réel.
Oui, ils sont plus en relation avec le réel parce qu'ils se positionnent contre. Mm. Donc, alors que ceux-là ne font juste pas être dans le réel. Reste qu'il y a un petit rapport trouble avec la réalité en général dans mon travail.
La réalité et la normalité,
oui,
peut-être, on pourrait dire.
Plus encore la normalité, ou puis les contraintes sociales,
ouais.
En fait.
Contraintes, d'ailleurs, ça, tu as écrit ça donc, en dilettante, pour ton plaisir, en dehors des cours. Mais l'écriture à contraintes, est-ce que ça te convenait à l'époque?
Pas du tout. Ça n'a jamais fonctionné pour moi, l'écriture à contraintes. Que ce soit des contraintes de longueur, de temps, de thème, c'est très dur pour moi de plier. En fait, c'est pas du tout lié à une sorte de paresse ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un problème avec l'obligation, quelle qu'elle soit et de quelque nature que ce soit. Par rapport aux gens ou au réel, comme mes personnages, ouais. Ça vient aussi d'une très mauvaise compréhension, en fait, des codes, des gens. J'ai beaucoup d'auteurs expliquent comment ils sont capables de comprendre les autres, puisque c'est ce qui leur permet d'écrire. Malheureusement, c'est absolument pas mon cas. Je ne comprends rien. Je réussis pas à décoder les gens. Je réussis pas à décoder leur état. Donc, tu sais, même avec mon chum, il faut que je lui dise, OK, mais là, t'es-tu fâché ou t'es triste? T'es-tu content? T'es-tu stressé par ton travail ou t'es fâché contre moi? Puis c'est pas comme par surcrainte ou quelque chose comme ça, c'est juste que je comprends réellement pas. Donc, je suis pas très compétente dans ce domaine-là.
Et tes personnages sont souvent des adolescents? Ils sont soit dans un âge de transition?
Bien, ça dépend. Dans le corps des bêtes, pas vraiment.
Le personnage de Mie,
le personnage de Mie, oui, mais mettons le personnage de Noé est une adulte de 40 ans.
Ouais. Mais qui est
pas
déconnectée.
30 ans. C'est ça, il y a un problème avec le réel différent pour chacun de ces personnages-là, mais... Je pense qu'à travers ça, il y a un petit peu de mon incapacité à le comprendre qui ressort aussi.
Un regard sur les
aussi.
Codes, un peu.
Oui, bien, sur les codes, sur les obligations, sur tout ce qui empêche d'être soi d'une façon ou d'une autre, c'est un truc que j'aime observer.
Tes personnages sont aussi caractérisés par leur nom, toujours
oui.
Très, très... en fait, extrêmement évocateur, mais de façon... non figurative.
Oui, mais dans le recueil, le personnage s'appelle Fleurange Bouquet. Donc c'est ça. C'était pas très subtil.
C'est
devenu un peu plus subtil à la longue. À l'époque, ça l'était pas vraiment. Mais oui, parce que de toute façon, je veux pas parler du monde tel qu'il est. Donc, pour ça, je vais essayer de créer un univers qui est un peu à côté. Et ça implique une utilisation des sonorités, je dirais, qui n'est pas la même que dans notre monde. Donc, si je vais choisir un nom, je n'ai pas vraiment d'exemple de nom conventionnel. Non, j'ai pas vraiment créé de personnages qui ont des noms très conventionnels.
Mais même tes noms de lieux.
Oh oui, c'est ça, mais c'est long de trouver ces noms-là.
Oui, hein?
Maintenant, je me suis fait un cahier, puis à chaque fois que j'ai une idée, je le note dedans, puis là, je les classe par nom de fille, nom de gars, nom de ville, nom de rivière, puis là, c'est tout classé de même. Fait qu'au moins, comme quand j'arrive à un endroit où il faut que je nomme quelque chose, là, des fois, je vais regarder qu'est-ce que j'ai noté, puis là, sous des prénoms amérindiens, des prénoms irlandais, des prénoms russes, c'est tout classé. Et c'est assez utile, je dirais.
Dans son conte « Les heureux », Audrey n'y allait pas par quatre chemins pour orienter notre lecture de ses protagonistes. Florange Bouquet, on l'imagine douce, délicate, parfumée peut-être, colorée sans doute. Gérard, le vendeur de cheval, c'est un homme d'une autre génération avec la tête d'un grand-oncle. Mais les noms tout court des personnages et lieux de son plus récent roman nous interpellent plutôt par leur sonorité, tantôt gutturale, tantôt rude comme du papier sablé. Osip, Noé, Sébastien, Bénédicte. C'est à la fois étrange et familier. Chacun peut y accoler des sentiments, mais pas la tête d'un membre de la parenté ou d'une collègue.
Est-ce que ta trame prend forme avant que tu écrives dans des carnets? Ou est-ce que tu pars à écrire, tu as ton personnage, puis tu le lances dans une aventure?
Ah non, 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 non. Ça, j'aime pas du tout l'imprévu dans aucune sphère de ma vie, encore plus dans l'écriture. Je sais qu'est-ce que je vais faire quand je commence à le faire. Je sais pas exactement comment ça va se faire, mais je sais c'est quoi le propos de mon texte, je sais la structure, je sais comment ça, je vais me rendre du point A au point B, mais après ça, il y a quand même beaucoup de souplesse sur la façon de raconter, le point de vue, les... Tu sais, puis je travaille en ce moment à construire mon prochain roman, puis je constate que je suis encore beaucoup là-dedans. Là. Tu sais, j'ai ma structure, j'ai mes personnages, il me reste à établir un peu l'environnement autour des personnages, puis après ça, je vais plus facilement pouvoir commencer à écrire. Il y a un morceau qui apparaît vraiment en cours d'écriture, mais... Il est plus relatif à l'ambiance, je ne sais pas comment le dire autrement, mais tu sais, à comment on se sent en lisant, ça va apparaître en écrivant. Mais l'histoire, je la connais avant de commencer. Je ne prends pas un personnage, puis je dis OK.
J'ai remarqué, je suis en train de lire donc, Le corps des bêtes, puis j'ai remarqué que tu as une image visiblement très claire du physique de tes personnages, mais que tu ne vas pas nous les présenter en nous les décrivant de pied en cap.
Je ne sais pas à quoi ils ressemblent, mes personnages. Les gens, ça, c'est une chose qui me fascine parce que je les vois pas dans ma tête.
Okay.
Ma belle-fille étudie en théâtre, puis elle me parle de ses livres, puis une des choses qui l'intéresse beaucoup, c'est le milieu de la réalisation. Puis elle est capable de me décrire exactement le costume, la tête, la musique, l'angle de caméra de chaque scène, de chaque livre qu'elle lit. Puis je ne comprends pas comment son cerveau fonctionne pour faire ça. Moi, j'écris, puis je ne sais pas. Tu sais, Noé, ça va, je sais un peu à quoi elle ressemble, parce que Noé, c'est comme une transposition de moi dans l'imaginaire, donc c'est correct, elle me ressemble. Ce bout-là, ça va. Mais en même temps, je ne veux pas qu'elle soit décrite de façon explicite pour que chaque lecteur puisse projeter qu'est-ce qu'il veut dessus. C'est pas vrai. Dans les 100, il y a une description claire au début de chaque partie des personnages. Mais en même temps, je me concentre sur des petits détails pour que chacun, encore une fois, puisse imaginer le personnage qu'il veut. Puis c'est quand même important pour moi d'avoir cette dimension-là. J'écris les textes pour plus avoir à être en charge des textes après qu'ils soient publiés, dans le fond. Je veux que chacun lise ce qu'il veut dedans, puis qu'il se l'approprie, puis qu'il perçoive différentes choses, puis qu'il... Tu sais, il y en a plein qui, après Us, pensent que Noé est morte, puis là, sont comme toutes déstabilisées parce qu'elle revient dans l'autre livre. Dans ma tête, moi, Noé était jamais morte, mais si la personne veut penser que Noé est morte à la fin de Us, puis que c'est un autre personnage qui revient, tu sais, c'est pas grave.
Ouais.
J'ai pas une lecture... que je m'attends à ce que ce soit ça que les gens lisent.
Ouais.
Puis c'est vrai sur tous les plans. C'est vrai pour mes fins qui sont tout le temps ouvertes puis que, dans le fond, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe après. C'est vrai pour les descriptions des personnages. C'est vrai pour les lieux que j'essaye qu'ils soient évocateurs, que ce soit des lieux que chacun... Tu sais, par exemple, dans Le corps des bêtes, ça se passe à un fort.
Ouais.
Mais, puis le fort est quand même décrit, mais il est décrit de façon assez générique dans le sens où c'est un fort qui ressemble à n'importe quel fort. Fait qu'après ça, si quelqu'un est allé voir un fort en Irlande ou en Écosse, puis que quelqu'un en a vu un au Nouveau-Brunswick, puis que quelqu'un en a vu un en Floride, ils vont tous avoir une esthétique différente, mais chacun peut projeter ce fort-là qu'il a vu dans le texte. Puis un autre exemple, mettons, la scène s'ouvre, le roman s'ouvre avec une scène qui se passe sur un quai. Oui. Moi, je suis partie d'un quai de Floride où j'allais quand j'étais petite, et je l'ai très clairement dans ma tête. Pourtant, les gens me parlent de quai nordique quand ils lisent ce texte-là. Je comprends pourquoi, pour toutes sortes de raisons, ça se passe clairement pas en Floride, mais, oui. mais ça change rien, en fait. C'est quel quai que tu vois dans ta tête quand tu lis ça, tu sais. Donc, j'essaye qu'une fois que le texte existe, chacun peut se l'approprier comme il veut.
Il y a de l'espace entre les lignes pour pouvoir...
Oui, le plus rentrer, possible, ouais. pour que chacun puisse... Surtout que ce qui m'intéresse, c'est beaucoup, ben, moins dans Le corps des bêtes, mais en général, c'est la question des fantasmes, puis des fantasmes, puis des tabous un peu, puis des choses qui habitent l'imaginaire de chacun, mais qu'on se dit pas, qu'on s'avoue pas si clairement que ça. Donc, pour permettre d'aller chercher cette émotion-là chez le lecteur, il faut qu'il puisse coller ses propres pulsions, son propre imaginaire sur le texte. Ça ne peut pas être exactement le mien, tu sais. Donc, mais ce que ça fait, qui est vraiment bizarre, c'est que chaque fois que quelqu'un le lit à voix haute ou chaque fois que quelqu'un m'en parle, puis c'est comme il y a un décalage entre ce que je pense puis ce que je reçois. Puis en même temps, je me dis, ben pourquoi pas, ça peut être absolument n'importe quoi. C'est ça. Tu sais, les 100, il y a eu une adaptation ce printemps. Il y a une autre personne qui est en train d'écrire un texte complètement différent. Puis il y a une autre personne qui est en train d'écrire un texte pour l'Ontario. Et c'est trois textes qui n'ont rien à voir ensemble. Mais comme on parle d'un spectacle à 8, d'un spectacle avec des chœurs, puis d'un spectacle à 2. Donc, il y a
des propositions
complètement différentes. Puis aussi, ce qu'on retient dans chaque adaptation, c'est vraiment pas la même chose. Donc ça, je trouve ça le fun. Ça veut dire que chacun peut vraiment aller chercher ce qu'il veut dans le texte.
Ouais.
Sur le coup, j'avoue que j'ai eu du mal à la croire, mais ce qu'Audrey vient de dire est on ne peut plus vrai. Après notre échange, je suis retournée feuilleter les pages du Corps des bêtes et à part une indication qui m'avait marquée concernant le menton mou d'Ozip, j'ai rien trouvé de bien explicite sur le physique des personnages. Pourtant, j'ai eu l'impression que je pouvais tous les dessiner, les créatures de ce microcosme. Plus parlante sans doute que les caractéristiques purement physiques comme ce couple rondelet ou cette femme si blanche apparaissant dans l'histoire qu'elle nous a lue au début, Les Heureux, on retrouve aujourd'hui dans l'écriture d'Audrey des indications sur ce que dégagent ces personnages, sur leur façon de marcher, de regarder, d'aborder le monde. Un peu comme leur nom fait de sons à coller, ces touches impressionnistes laissent place à l'interprétation tout en suscitant des images fortes.
Mais tu parlais de tabou, fait que ça me donne envie de te parler un peu de ta nouvelle dans Pulpe.
Oui.
Le recueil de Stéphane, dirigé par Stéphane Dompierre, qui va paraître cet automne au début du mois d'octobre, auquel tu as collaboré, avec un texte qui s'intitule
La Colombe. Oui.
Et qui est une réécriture des moins immaculés oui. de l'Immaculée Conception.
Exactement.
Et où, en fait, moi, quand j'en ai parlé un petit peu déjà autour de moi, c'était beaucoup en disant que tu avais évité les écueils du trop dit et qui aurait peut-être été une plus grande rupture de tabou en quelque sorte en rendant ça cru, parce que ce n'est pas cru.
Non, mais je ne suis pas capable de faire des choses crues. Ben, tu sais, même, j'aime pas ça, de faire des choses vraiment explicites. Et dans le texte sur l'Annonciation, c'est vrai que c'est très subtil, mais en même temps, je veux jouer sur l'ambiguïté de la scène. Donc, si je l'avais rendu cru,
ça aurait été
inefficace parce que ça aurait été juste subversif puis oui. pour choquer. Tu sais, oui. alors que mon but c'est pas de taper du pied puis faire hey, oui, voici, je prends une scène biblique et je. Tu sais, c'était pas ça. C'est plus de jouer avec ce qui s'est passé. C'est quoi le réel puis comment ça se passe puis qu'est-ce que ben, le réel. Il y a pas de réel, mais comment, de quelle façon on peut jouer avec cette scène là. Sans complètement choquer pour choquer, puis en même temps, en amenant la réflexion un peu ailleurs.
Oui.
Donc ça, c'était assez amusant, mais les gens trouvent parfois... Ben, mettons, dans les 100, la violence est explicite quand oui. même, mais la sexualité ne l'est pas. Mm. On ne voit pas de... Je veux dire, à part quelques mentions, les scènes... où les gens font l'amour ensemble, sont pas du tout décrites, là.
En fait, les deux scènes érotiques en gros guillemets, qui me reste le plus des sens, c'est la chasse à cours.
Oui, mais on est dans les sens. Mais oui. Puis dans le ballet, je veux dire, je parle pas de pénétration. Tu sais, je sais pas du tout. C'est que, en fait, le lecteur sait que c'est érotique,
ouais,
parce que tout est en place pour ça. Mais après ça, chacun la vit et la ouais voit et l'imagine comme il veut.
Ouais.
Puis, tu sais, j'ai donné des cours de création littéraire en Suisse. Puis en Suisse, il y a quand même plus de c'est quand même un peu plus, je sais pas, puritain serait le mot adéquat. Pour donc, puis il y a un de mes étudiants qui avait lu Os. Il m'avait dit, on n'a pas le droit d'écrire un texte comme ça. Ben, je suis comme, OK, mais non, tu peux écrire ce que tu veux, mais pourquoi ça te dérange comme ça? Dis-moi, mais c'est extrêmement explicite. Puis j'ai comme, non, dans Os, il n'y a rien d'explicite. C'est à part la violence l'est. Mais concrètement, la sexualité, c'est « il l'apprend ». Tu sais, je veux dire, c'est ça, là. Fait qu'en soi, c'est pas décrit, là.
Ouais.
Mais après ça, la personne peut se faire la scène, justement le film, comme ça, le méfait qu'il se veut. Tu sais, chacun construit ça comme il veut. Donc, je pense que finalement, la suggestion est beaucoup plus efficace que, en tout cas pour moi, puis pour mon type d'écriture aussi, puis pour mon imaginaire, mais plus efficace que de tout expliquer, parce qu'après ça, je vais jamais être aussi précise que l'imaginaire de la personne qui est en train de le lire. Donc, plus je lui laisse de place, mieux c'est.
Mais un truc qui m'avait frappé quand j'avais lu l'extrait texte que tu m'as envoyé, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs chaudes qui sont nommées, beaucoup de rouge, d'orange, d'ocre,
oui, c'est vrai,
de jaune.
C'est plus vraiment mes couleurs.
Non, hein, on n'est plus là, on est plus dans des gris bleutés.
Oui, on est dans des tons
charbons,
plus froids un peu.
Ouais.
Mais ça, je pense que c'est l'adolescence, en fait. Mm-hmm. Tu sais, j'avais 16 ans. Mais j'ai vieilli quand même aussi. Et donc, comme à partir de là, je peux plus créer des univers narratifs qui sont proches des couleurs de la nature à proprement parler. Tu sais, donc, dans les ocres, dans les gris, dans les verts, dans les bruns, dans le bleu un peu. Mais c'est vrai que mon univers, même visuel, tu sais, quand je fais de la photo, des choses comme ça, ça ne m'intéresse pas d'aller dans des couleurs flash.
Mm-hmm.
J'y vois assez peu d'intérêt. Parce que, en fait, les couleurs vives, je parle plus pour la photo que dans le texte, évidemment, mais bon, viennent fixer des époques, quand même. Alors que les couleurs de la nature viennent rendre ça un peu plus intemporel. Et je pense qu'un peu, c'est un peu la même chose dans les textes. Si je parlais de tissu à fleurs, il y a beaucoup de choses qui sont associées aux couleurs. Beaucoup de choses sont associées aux textures. C'est pour ça aussi que, tu sais, quand j'écris, je vais beaucoup chercher dans le vocabulaire plus ancien.
Des
matières
voies,
brutes
des
qui vont faire en sorte... Elles sont encore utilisées aujourd'hui, mais elles pouvaient être utilisées il y a 200 ans. Donc, elles ont un côté intemporel qui est plus facile à gérer, tu sais. Donc, d'où peut-être... que je savais pas vraiment ces considérations-là au secondaire.
J'aurais de la difficulté à placer dans un siècle... n'importe lequel de tes romans. Je sais
mais
qu'il y a
ça,
un
je
trait.
Travaille extra fort pour que ce soit pas possible de les placer. Et c'est le plus grand défi de mon prochain roman.
Okay.
Parce que là, il y a vraiment une vie de village puis tout ça, puis je sais pas comment la construire pour pas qu'elle soit incarnée dans une époque. C'est un gros enjeu en ce moment. Parce que pour moi, c'est important que ça reste aussi ouvert que possible pour que, justement, chacun puisse se l'approprier. Puis pour aussi, moi, pas me restreindre. Tu sais, là, le quatrième livre que je suis en train d'écrire, c'est l'histoire de la mère de Noé, mais Noé est abandonnée.
Elle
connaît pas sa mère. Donc, on s'en fout en même temps de c'est qui. Mais moi, ça me permet de faire un clin d'œil à ceux qui ont lu les autres livres. Mais pour pouvoir faire ça, ça me prend un univers qui est le plus souple et ouvert possible. Donc, je continue de faire extrêmement attention à ne pas fixer d'époque, pas fixer de lieu, de pas fixer... pour avoir autant de liberté puis de marge de manœuvre que je veux dans cet espace-là. Je pense que c'est ce que font les contes, c'est ce que fait tout univers qui n'est pas incarné, c'est de ramener l'humain à lui-même et non à toute la société, à toute la structure qui l'entoure.
Mm-hmm.
Puis chaque époque a ses structures puis ses codes. Donc, à partir du moment où il n'y a pas d'époque, on peut vraiment aller dans l'humain au lieu d'aller dans les codes propres à chaque époque.
Est-ce que c'est pour ça que tu as voulu jouer avec le conte de Barbe Bleue, avec
les contes sont des bons matériaux de départ. Tu sais, ça paraît plus du tout, mais dans le corps des bêtes, au départ, je suis partie du mythe de Salomé aussi, qui est un triangle essentiellement. Et cette relation triangle-là m'intéressait. C'est comment une mère peut permettre à son enfant de coucher avec son conjoint, tu sais. Donc, ce triangle-là m'intéressait. Puis, à chaque fois, je pars quand même d'une donnée de base, mais elle vient tellement loin après que c'est vraiment un outil plus que d'autres choses. Pour Barbe Bleue, je m'en souviens plus tant que ça, mais au départ, les sens étaient beaucoup plus gros. Les sens étaient un quart d'un projet qui aurait dû avoir trois, comme quatre quarts, finalement. Puis Barbe Bleue était un des mythes. Tu sais, je m'étais juste pour m'aider puis m'inspirer. J'avais comme attribué à chaque partie un conte à partir duquel travailler. Puis finalement, je me suis rendu compte que le morceau le plus fort, c'était celui-là, puis que c'était peut-être celui qui était le plus intéressant de creuser. Mais tu sais, c'est ça, là, j'avais utilisé le mythe de Salomé, puis on n'est plus dans le conte. Puis ouais. Pour le prochain, c'est Médée qui m'intéresse. Donc, mais ça, on parle plus de grands mythes que...
Des grands schèmes.
Oui, exactement, qui sont des choses soit qui nous font peur, soit qui nous dérangent, qui sont tabous pour toutes sortes de raisons. Mais tu sais, en même temps, à partir du moment où je travaille sur un triangle amoureux, que moi, je pars de Salomé, mais que ça peut être n'importe quel triangle qui soit dans le monde, tu sais. Puis finalement, même ce triangle-là est complètement déconstruit dans le livre, tu sais. C'est juste que c'est des points de départ et des outils, mais je pense pas que ce soit des clés de lecture.
J'ai relancé Audrey en lui demandant ce qu'elle pensait de ce que Disney fait des contes, modifiant les finales et les péripéties en leur enlevant souvent beaucoup de leur violence. À sucrer l'histoire, est-ce qu'on n'en perd pas l'essence?
Le conte servait à préparer l'enfant au monde, mais le monde auquel l'enfant a à être préparé aujourd'hui n'a rien à voir avec le monde auquel l'enfant devait être préparé il y a 300 ans.
Vrai, très vrai. Tout comme, sans abolir complètement les identités genrées, on peut beaucoup plus facilement aujourd'hui construire des personnages masculins et féminins qui n'ont pas à tenir dans des moules aussi rigides que par le passé.
Des personnages féminins sont hyper forts, j'irais jusqu'à dire musculeux.
Ils ont une virilité.
Oui, effectivement.
Même si ça vient encore dans le masculin féminin, il y a un côté quand même de virilité dans ces femmes-là. Et mes hommes sont assez doux, en fait, en général. À part, même Féléor, même dans les sangs, mon meurtrier est mou un peu. Oui. Mais tu sais, c'est aussi parce que comme j'ai beaucoup de misère à lire les autres, j'ai beaucoup de misère à lire les hommes. Et donc, à comprendre concrètement. Je suis chanceuse parce que mon chum, qui est mon éditeur aussi, maintenant m'explique beaucoup de choses. Puis là, ça m'aide à faire des hommes plus complets. Déjà, je trouve que Oisip, dans Le corps des bêtes, est un personnage qui est plus complexe que Féléor avant lui, mettons. Ou Rameau, les autres hommes que j'ai mis en scène. Mais j'ai besoin d'un traducteur pour m'expliquer comment la pensée masculine fonctionne. Cela dit, j'ai aussi besoin d'un traducteur pour m'expliquer comment la pensée féminine normale fonctionne. Donc, je suis juste pas bonne pour décoder en général. Cela dit, pour la force des femmes, c'est parce que pour moi, c'est comme une évidence. Je sais pas, c'est dur d'en parler parce que je me suis jamais sentie militante ou quoi que ce soit parce que ça a jamais été un enjeu. De la question de la force des femmes ou de leur liberté ou tout ça. Donc, on dirait que quand je l'écris, c'est juste normal.
C'est d'évidence.
Je comprends même pas pourquoi ça devrait être une question. Mais en vieillissant, je vois en même temps là où... OK, mais c'est pas comme ça dans le fond, mais c'est ça. Bref, je me sens moi-même très libre, très forte. Je me suis jamais demandé si ce que j'allais faire allait plaire ou déplaire, déranger un gars parce que je suis une fille. Tu sais, je veux dire, ça existe juste pas dans ma tête. Donc, ça existe juste pas dans la tête de mes personnages, tu sais.
Mais il y a un passage que j'ai trouvé très évocateur dans Le corps des bêtes où le personnage de Noé rassemble des brindilles, des bouts de bois, toutes sortes de choses flottées pour faire un feu. Et elle les accumule dans le tissu de sa jupe. Et cette scène-là nous est racontée à travers les yeux de Oisip, qui nous dit... Ou Ozip?
Ozip, ouais, Ozip,
bon. Qui nous dit à quel point il est étonné de voir que ses tissus fins, ouais. En tant que non, oui, il n'est pas habillé en ouais. soi, là, mais que ses tissus féminins
sont résistants.
Oui, sont résistants et capables d'en empiler beaucoup dans sa jupe.
Oui, c'est
sans
vrai.
Sans que ça cède.
Mais, oui, mais il y a ça. Mais c'est vrai que c'est ça, dans le fond, ma vision de la femme, c'est vraiment ça. Comme elles ont toujours été fortes aussi. C'est pas parce que tu tiens pas le lieu en avant-scène tout le temps que t'es pas en train de tout soutenir dans ta jupe, tu sais. Mais j'ai grandi avec juste des filles. J'ai 3 sœurs. J'ai grandi dans une rue qui était un rond-point où on était 9 filles. 9 enfants, puis j'étais la plus vieille, puis ma sœur, ma plus jeune sœur, avec qui j'ai 6 ans de différence, était la plus jeune. Fait qu'on était 9 très, très proches. J'ai été à Jésus-Marie pendant 11 ans. Donc, jusqu'à temps que j'arrive au cégep, j'avais jamais été en relation avec des gars, à part mon père, qui a 4 sœurs. Donc, tu sais, comme, ça a toujours été un univers de filles puis de femmes, puis ça a toujours été un univers où, je veux dire, il n'y a aucune limite, là. Donc, c'est ça, ça fait...
Dans ton compte, le chasseur peut être joué par une femme, le logre peut être
ben,
joué par une
temps,
femme.
En même temps, ils sont stéréotypés, mes personnages. Tu sais, on les voit pas jouer ça tant que ça, tu sais, mais les fonctions sont quand même respectées. C'est juste que, Alain, c'est juste que les fonctions ne traduisent pas, ne témoignent pas de la force.
Ouais.
Ouais, je dirais que c'est plus ça, tu sais, parce que ça reste une ballerine, ça reste une botaniste. C'est pas des gens qui vont être pompiers, là, tu sais. Mais c'est juste que c'est pas parce que tu tiens un rôle de femme que t'es faible pour autant, tu sais, ou que t'es pas libre. Mais ça vient plus d'une incapacité à comprendre le monde que d'une réelle comme conscience féministe, je dirais. En fait, j'écris beaucoup pour me raconter moi. À moi.
Audrey a beau dire, elle laisse quand même tellement de place aux yeux qui la lisent qu'on finit tous par se reconnaître dans un motif ou un autre du miroir kaléidoscopique que nous tend son écriture. Son étrange d'aujourd'hui est bien plus accueillant que le monde clos de Mary Berrydale. Mais faut bien commencer quelque part. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous avez entendu un extrait de « Les heureux, un conte de fées sans fées » de Audrey Wilhelmy, œuvre inédite à ce jour, sauf pour un tirage très limité. Pour en savoir plus sur sa nouvelle publiée dans le recueil Pulpe, consultez la fiche du titre sur le site québec-amérique.com. Faut bien commencer quelque part est une production des éditions Québec-Amérique et est enregistrée devant public dans notre café littéraire, chez l'éditeur, situé sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Le thème musical et les autres pièces que vous avez entendues sont des compositions de Adriana Crickle. À la production et à la technique, mon collègue Philippe Collard. À l'animation, Myriam Caron-Belzil. Si vous aimez ce que vous entendez, laissez-nous un commentaire sur iTunes. Consultez la page du café sur Facebook pour connaître la date de captation et le thème de notre prochain épisode.
Salut, je m'appelle Nathaniel. Je viens vous présenter un café qui s'appelle Chez l'éditeur. C'est un endroit où on peut prendre un café, un chocolat chaud, une soupe. Mais bon, moi, j'aime mieux les biscuits et les chaussons aux pommes. C'est un endroit où on peut regarder et même acheter des livres. On peut même croiser des écrivains et des éditeurs. On peut aussi assister à des ateliers, des conférences et même des rencontres avec les auteurs. L'adresse est le 7240 rue Saint-Hubert à Montréal et les heures d'ouverture sont dès 7h la semaine et 9h la fin de semaine. Merci de m'avoir écouté. Bye!